Vous écoutez
RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le flop du gouvernement, du plan du gouvernement contre les déserts médicaux. Vous vous souvenez des annonces, c'est au printemps, le gouvernement avait fait de grandes annonces pour inciter les médecins à aller dépanner à la campagne. Et bien c'est une info RMC ce matin, seulement 250 généralistes se sont portés volontaires. Question ce matin, l'Algérie va-t-elle libérer le journaliste français Christophe Glaise, condamné à de la prison depuis cet été? C'est aujourd'hui qu'il sera jugé. Et la police, carrément déployée ce matin à Nice pour la reprise de l'entraînement du club de foot après les incidents de dimanche.
Et encore une fois, c'était des grandes annonces et elles n'ont pas été suivies d'effet.
Oui, souvenez-vous de ce que voulait faire le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. C'était au mois d'avril. Le Premier ministre à l'époque, c'était François Bayrou.
Ainsi, chaque médecin généraliste ou spécialiste qui exerce dans un territoire bien pourvu devra consacrer un ou deux jours par semaine à des consultations dans les zones qui sont les plus en difficulté, que nous appelons les zones rouges.
Eh bien Solène Leroux, vous avez enquêté pour RMC, on est 7 mois après la grande annonce de ce dispositif. C'est une info RMC, donc ce matin, il y a seulement 250 médecins qui se sont portés volontaires, c'est pas beaucoup. Pourquoi ça marche pas?
Il y a en fait pas mal de freins techniques déjà. Chaque médecin doit pouvoir se connecter au dossier médical partagé pour que le suivi du patient soit assuré. Et même ces blocages sont de moins en moins, même si ces blocages sont de moins en moins nombreux, nous dit le ministère de la Santé, ce n'est pas encore ça. L'accessibilité de la commune joue aussi. Écoutez, Jérémy Brigand, il est président d'une communauté de communes à 1 heure de Dijon.
Chez nous, on n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute. Donc ça veut dire qu'il y a 1 heure de route à faire le matin et le soir. Ça correspond à 2 heures de consultation en moins. Et les 200 euros offerts par l'État ne couvrent même pas les 7 consultations que le médecin ne peut pas assurer.
Résultat, aucun médecin ne s'est porté volontaire là-bas pour le moment. L'élu le comprend, d'autant plus que pendant ce temps, qui va soigner la patientèle habituelle des généralistes? Et puis, dans certaines zones, ce sont finalement les patients qui manquent, pas parce qu'ils n'ont pas besoin de praticiens, non, plutôt parce que la prise de rendez-vous est complexe, ou alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant du dispositif. Un médecin près de chez vous compte bien renforcer son déploiement au fur et à mesure, même s'il n'y a aucun objectif chiffré par le ministère.
Enquête et information RMC signée ce matin Solène Leroux en plein débat budgétaire au Parlement. Celui de la Sécu est de retour à l'Assemblée depuis hier. Le temps presse et pourtant la coalition gouvernementale se fissure puisque les députés Horizon d'Edouard Philippe préviennent qu'ils ne le voteront pas ce texte en l'état. Et maintenant, que va-t-il se passer concernant le sort de la guerre en Ukraine? Américains et Russes n'ont pas réussi à s'entendre. Hier et même cette nuit sur le fameux plan de paix, il y avait des discussions à Moscou en présence de Vladimir Poutine, plan qui a été modifié ces derniers jours. C'est la question des territoires en Ukraine qui pose problème. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Le ping-pong continue donc puisque désormais les Américains sont censés discuter avec les Ukrainiens.
Écoutez, les émissaires de Donald Trump doivent rencontrer Volodymyr Zelensky aujourd'hui pour lui faire un compte-rendu de leur réunion au Kremlin. Une réunion qui a duré 5 heures et qui n'a pas permis de régler les sujets les plus sensibles, et notamment les concessions territoriales. Poutine n'est pas prêt à transiger. Il exige toujours l'annexion complète du Donbass, y compris les zones que son armée ne contrôle pas. Alors la question désormais, c'est de savoir si les Américains vont accentuer la pression sur le président ukrainien pour le forcer à faire des compromis. Trump, en tout cas, de son côté, semble un peu lassé par ces discussions qui n'avancent pas vraiment. Il est silencieux sur l'Ukraine depuis hier soir. Il n'a manifestement plus envie de s'impliquer directement. Il laisse la main à ses émissaires, ce qui lui permettra de s'attribuer le mérite d'un éventuel succès, tout en évitant d'être en première ligne en cas d'échec.
C'est un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Vous vous souvenez certainement de la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, le fameux vol MH370, il y a 11 ans. Eh bien, la Malaisie annonce ce matin que les recherches vont reprendre à la fin du mois. C'est aujourd'hui que doit être jugé en Algérie le journaliste français Christophe Glaise, journaliste condamné fin juin à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme et propagande nuisant à l'intérêt national. C'était dans le cadre d'un reportage, mais Cassandre Brault, dans la foulée de l'affaire Sansal, vous nous dites que ses proches ont bon espoir.
Oui, surtout après la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, même si l'avocat de Christophe Glaise précise que les deux affaires n'ont rien à voir. C'est un signal positif pour ses soutiens qui espèrent l'acquittement du journaliste. Thibaut Brutin est le directeur de Reporters sans frontières.
La communauté des gens qui est mobilisée pour Christophe, elle est vraiment confiante.
tout en étant très prudente. Et je crois que pour nous, là, le rapprochement qui est désormais peut-être possible entre la France et l'Algérie, du moins on peut le souhaiter, laisse imaginer qu'il peut y avoir une issue rapide, favorable à Christophe Glaize.
La justice algérienne reproche à Christophe Glaize d'avoir été en contact avec un dirigeant d'un club de foot, un homme par ailleurs responsable dans une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Dans ce procès en appel, les avocats de Christophe Glaize veulent démontrer le caractère professionnel de la démarche du journaliste français et que cette rencontre a été effectuée dans le cadre d'un reportage.
C'est l'avenir de Brandt qui va se jouer aujourd'hui au tribunal de Nanterre, un des derniers grands fabricants d'électroménagers en France, placé en redressement judiciaire début octobre. Le gouvernement et les élus locaux multiplient les soutiens ces derniers jours au projet de SCOP, la reprise par les salariés, comme Duralex en fait l'année dernière, qui permettrait de sauver 300 des 700 emplois et les deux usines près de Vendôme et Orléans. Il y aura du changement au 1er janvier sur la route. Vous allez certainement voir apparaître des plaques d'immatriculation de couleur rose. Ce sera pour mieux identifier les voitures qui ont des plaques temporaires et c'est pour lutter en fait contre la fraude à l'immatriculation à Lougarnier.
Oui, des plaques roses pour faciliter le travail des forces de l'ordre en les rendant plus visibles dans le flot de la circulation. L'objectif, c'est de mieux contrôler la période de validité de ces plaques temporaires car certains continuent de rouler avec. Et s'ils prennent une amende, c'est le conducteur à qui ce même numéro de plaque a été attribué qui recevra la contravention. Alors en plus du rose pour attirer l'attention, le mois et l'année d'expiration de la plaque provisoire seront visibles sur la droite à la place de la région et du département. L'immatriculation provisoire concerne plus de 400 000 véhicules par an, notamment les véhicules neufs avant immatriculation définitive ou des véhicules achetés à l'étranger en attente d'une immatriculation française.
La saison de Formule 1 n'est toujours pas terminée, qu'on pense déjà à la prochaine avec la promotion du français Isaac Hadjar qui sera au volant d'une Red Bull l'année prochaine. Il va devenir en fait le coéquipier du néerlandais Max Verstappen, lui qui était jusque-là dans l'écurie parallèle Racing Bull, à seulement 21 ans et une seule saison en Formule 1. Rendez-vous compte, la police sera carrément déployée aujourd'hui à Nice pour la reprise de l'entraînement du club de foot. Après les incidents de dimanche, des joueurs frappés, le club qui est en pleine crise, l'entraîneur doit même annoncer son départ. Bref, reprise sous haute tension, Maxime Tillette.
Oui, deux joueurs vont manquer à l'appel, Jérémy Boga et Terem Moffi, en arrêt de travail après les coups reçus dans la nuit de dimanche à lundi. Une enquête pour violences aggravées a été ouverte par le parquet de Nice après leur plainte et celle de leur club. Ils ne veulent plus porter les couleurs niçoises et selon nos informations, l'entraîneur Francaise devrait lui annoncer ce matin son départ au groupe. Le directeur du centre de formation Julien Sablé assurerait l'intérim. Une réunion doit se tenir entre le staff, les dirigeants et les joueurs avant de retrouver les terrains en fin de matinée. Et certains d'entre eux, choqués, espèrent trouver une porte de sortie lors du mercato d'ici un mois. Ils pointent du doigt le dispositif de sécurité et le manque d'anticipation de leurs dirigeants. Autre conséquence, dès ce matin, la police nationale sera en renfort sur le boulevard qui jouxte le centre d'entraînement pour sécuriser l'arrivée des joueurs.
Puis tirage au sort dans la matinée 10h des groupes de la Coupe du Monde de rugby 2027. Avec 2 ans d'avance, on fait jamais comme les autres en rugby. La France est dans le groupe des favoris. On va donc s'éviter les grosses nations, mais il y a quand même un risque de tomber sur l'Australie, l'Écosse ou les Fidji.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Économie et épargne, Emmanuel Lechypre. Emmanuel, l'épargne sans risque sur le livret A ou l'assurance vie va être davantage taxée.
Elle devrait être davantage taxée. C'est vraiment à la sulfateuse que le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est une émanation de la Cour des comptes, propose donc de dépoussiérer les habitudes d'épargne des Français en partant d'un constat, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, ils ne peuvent pas, comme c'est le cas aujourd'hui, bénéficier d'une multitude de dérogations et d'abattements fiscaux, sans lesquels ils paieraient quand même 2 fois plus d'impôts et de taxes sur leur épargne et en même temps placer de gros montants qui leur apportent sans le moindre risque sur le livret A ou sur l'assurance vie par exemple.
Alors à quelle sauce les petits épargnants vont être ponctionnés ?
Alors le Conseil des prélèvements obligatoires suggère d'abaisser d'abord les plafonds de l'épargne réglementée. Vous savez que le plafond sur le livret A aujourd'hui c'est 22 950 euros, 15 300 pour un livret de développement durable. Ils disent c'est trop, il faudrait abaisser ces plafonds pour limiter cette épargne à la seule épargne de précaution, celle qu'on doit pouvoir mobiliser en cas de coup dur. Mais ils veulent aussi soumettre à l'impôt les intérêts qui dépassent ces plafonds. C'est-à-dire que quand vous êtes au plafond et que vous accumulez des intérêts chaque année, bah votre compte, votre livret A, il augmente, mais cette épargne-là, elle est toujours pas pas taxé. Il y a quand même plus de 7,5 millions de livrets A qui sont au taquet sur 58. Et puis même coup de rabot en vue sur l'assurance vie, fiscalement très avantageuse, surtout en cas de succession. Plus largement, tous les revenus du patrimoine seraient réintégrés dans votre revenu fiscal de référence, dépouillés de leur fiscalité avantageuse.
Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a dit pas question de toucher au livret A.
Oui, bah, on le comprend.
J'aimerais bien comprendre.
Bah, c'est-à-dire que Roland Lescure, vous comprenez bien que dans la période actuelle, il va pas ouvrir un dossier aussi explosif que celui du livret A. Il n'empêche qu'il a tort, parce que en économie, ce qui est bon pour un ménage ne l'est pas forcément pour un pays. Jamais les Français n'ont autant épargné. Ils sont les plus gros épargnants d'Europe. Et pourtant, ils sont ceux qui investissent le moins dans les entreprises, dans l'innovation. Financer le logement social ou la dette de l'État, c'est bien, mais financer la croissance de demain, c'est encore mieux. Bref, on dit que les Français ne travaillent pas assez. C'est aussi vrai pour leur épargne.
Merci Emmanuel Le Chypre, 8h10. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, le face-à-face, ce sera la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Aurons-nous un budget pour Noël? Et puis juste après, c'est Nicolas Canteloup et ses imitations, bien sûr, face à Canteloup. C'est tous les jours à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h10. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et c'est tous les jours notre Arnaud de Manche National. Salut Arnaud.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
C'est le 3 décembre. Alors c'est le troisième jour du calendrier de l'Avent, du LOL. Chaque jour une nouvelle blague pour bien démarrer la journée. Aujourd'hui Apolline, c'est une devinette. Attention. Qu'est-ce qui fait toin-toin?
Un canard.
Un tanard.
Ah,
ben voilà. Vous savez que Pierre Desproges nous regarde de là-haut. Il est consterné.
Il est remords.
Il est mort une deuxième fois. Mais il faut rigoler parce que l'actualité n'est pas drôle, Apolline. Rendez-vous compte, François Hollande a été cambriolé. François Hollande et Julie Gayet, nos Brad Pitt et Angelina français à nous. Notre couple glamour, c'est nos Kennedy et Marilyn de chez Shein. Alors là où c'est con, c'est que sa résidence, comme celle de tous les anciens présidents, est surveillée par la police 24 heures sur 24, sauf que la présence des policiers gênait les voisins. Du coup, les policiers avaient été déplacés à 300 mètres de la maison.
Ouais.
Effectivement, c'est moins pratique surveiller ce qui se passe. Par contre, le voisin du bout de la rue, lui, il n'a pas été cambriolé. Comme quoi, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux piquer à François Hollande? Ses idées, pouf, ses fringues. Qui va voler les fringues de François Hollande? Xavier Bertrand, mais à part ça. Sinon, il y a la bouffe.
Tu veux le contenu?
Sinon, il y a la bouffe.
Ouais,
Hollande, il est rentré chez lui, il fait « Oh les salauds! Ils ont volé le restant de pâté. Non, chouchou, tu l'as mangé hier soir. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Alors, j'ai un copain caméraman qui m'a dit hier, je vous raconte une histoire vraie, hein, c'est une vraie anecdote. Il m'a dit, j'ai retourné un reportage chez François Hollande. Il y a quand même un truc précieux chez lui. Il a tous les départements sur le frigo.
Ah, il a mangé assez
les aimants, de... ouais, les aimants qu'il y a dans les cordons bleus, il a la collection complète, sachant qu'il y a 101 départements, il a dû bouffer entre 2 et 3 000 cordons bleus, le pauvre. Mais ça valait le coup. Alors, est-ce que les bandits sont repartis avec la collection? Ou alors, plus vicieux, ils sont repartis juste avec le Loir-et-Cher. Ils ont pris un trou pour faire un trou au milieu de la carte. Hollande, il est rentré chez lui, il a fait, oh non, Julie, recommande des cordons bleus. Quelle abnégation. C'est ça, un président.
Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de 2 jours.
Oui, il va aller à Chengdu où était transféré le couple de pandas du zoo de Beauval, les pauvres pandas. Ils pensaient être débarrassés de Macron. L'autre, il déboule dans leur enclos. Coucou les pandas, papa est de retour. Vous m'avez manqué. Non, parce que j'ai fait panda deuxième langue. Ça veut dire 12 heures d'avion dans une cage en soute pour revoir sa tronche. Si j'étais pas aussi feignant, je l'attaquerais.
C'est vrai que le panda est feignant.
Emmanuel Macron va sûrement profiter de sa visite d'État pour visiter les usines Chine, maintenant qu'on bosse avec. Ça va les enfants? Dites donc, c'est sympa de faire une crèche pour les enfants des ouvriers à l'usine. Bon, c'est pas les enfants des ouvriers, c'est les ouvriers. Hein, vous vous méfierez, il y en a une qui bouge pas. Hein. Non, ça c'est pas une ouvrière, c'est une poupée sexuelle. Allez les enfants, on se dépêche de la terminer. Il y a monsieur Matzneff qui attend sa livraison. Ben, c'est beau une économie qui tourne. On va la vendre au BHV.
Arnaud, la chaîne info de la galaxie Bolloré, CNews, a lancé une déclinaison, ça s'appelle CNews Prime.
Ouais, tous les cadres ont fait une réunion chez Vincent Bolloré qui a dit « On va lancer un nouveau CNews ».
CNews 2 et je serai le maître du monde.
Mais en attendant, je vais me faire des crêpes. Bon, en vrai, il a réuni ses proches dans son manoir breton. Bon, Yann, Erwan, Gwenaël, encore Yann, Swazik, l'autre Yann, Yann numéro 3. Je vous ai rassemblés parce que j'ai une idée. Si on lançait un nouveau CNews.
Super idée, patron. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des vraies infos?
Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Insolent! Qu'on le jette dans l'oubliette des gauchistes! Il rejoindra Laurent Geoffrin.
J'ai peur que chez Canal, ils déclinent la marque un peu trop, quoi. Dans 5 ans, on pourra zapper sur CNews Cinéma.
Et ce soir, sur CNews Cinéma, un drame, celui d'un homme handicapé et vulnérable, pris en otage par un Malien sans papier. C'est Intouchable et c'est à 21h sur CNews Cinéma. Demain, vous retrouverez l'histoire réjouissante de deux guerriers médiévaux français qui chassent à grands coups d'épée les sarrasins qui infiltrent le service public. Ce sera Les Visiteurs sur CNews Cinéma. Et vendredi, Louis de Funès et Bourvil dans le rôle de deux terroristes antipatriotes qui s'attaquent lâchement à nos amis allemands et au gouvernement légitime du glorieux maréchal qui a sauvé tant de juifs. C'est la grande vadrouille et c'est sur CNews Cinéma. Allez, à demain.
Merci Arnaud. C'est l'heure de jouer et de gagner le calendrier de l'Avent toute la semaine.
RMC vous offre un fabuleux
Noël. Mais oui, on va vers Noël. Elle est là, Maria Carré. Elle est dans ce studio. Il est 8h19 et c'est Alexandre qui a gagné. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour Apolline.
Alexandre, félicitations. Vous criez pas, vous dis donc. Vous êtes.
Non,
mollo mollo.
Ouais, exactement.
Il attend son cadeau. Alexandre, à Marennes dans le Rhône. Alors, on est le 3. Donc, on va ouvrir le 3. Attention, Alexandre. Qu'avez-vous donc gagné? Wow, vous avez remporté un MacBook Air.
Allez,
l'ordinateur portable d'Apple, ultra performant. Jouer, travailler, valeur 1100 euros. Félicitations,
super.
Alexandre.
Ben, merci beaucoup.
Oh, ouais,
c'est
top.
Ah,
c'est vraiment une belle surprise.
Et ben, ça fait très plaisir. On va vers Noël. Et c'est déjà un peu Noël sur RMC. Vous avez bien fait d'écouter. Belle journée à vous, Alexandre. Il est 8h20. Alors, on a un calendrier de l'Avent, mais on n'a pas de budget. Et ça, honnêtement, pour la France, c'est pas terrible. Dans un instant, mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Je vais l'interroger sur le budget, puis je vais l'interroger sur toutes ces grandes annonces qui ont eu zéro effet. On parlait ce matin de cette annonce où des médecins allaient sauver le grand plan des médecins. Bah, à la fin des fins, il y a 250 médecins volontaires pour toute la France. Ou alors le grand plan fertilité. Zéro effet concret. Zéro, zéro, zéro. Donc voilà, je lui pose la question dans un instant. Ça promet. Il est 8h20. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Maude Bréjon.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Ce budget, ce fameux budget, le budget de la France, le budget de la sécurité sociale. Honnêtement, au moment où on se parle, c'est quand même assez mal barré. Il y a peu de chances vraiment qu'on en ait un avant Noël, non ?
Écoutez, moi je constate que la deuxième partie du projet de loi de finances de la sécurité sociale, celle qui porte sur les recettes, a trouvé une majorité à l'Assemblée nationale. Je constate que depuis plusieurs semaines, les députés discutent. Alors oui, c'est long, oui, c'est exigeant, oui, c'est technique, mais sur un certain nombre de sujets, ils arrivent parfois à s'accorder. Nous, vous savez, on a 1049.3 de côté. On s'est engagé à ne pas l'utiliser. Nous ne l'utiliserons pas. Et c'est désormais.
Vous nous redites ce matin.
Oui, je
vous redis que vous n'utiliserez pas le 49.3. Il n'y aura pas de 49.3.
Utiliser le 49.3, ça revient à acter l'échec des discussions parlementaires. On est en train de vivre un moment historique avec un budget extrêmement important, le budget de la sécurité sociale, avec une nécessité absolue de réduire le déficit et de s'accorder pour prendre des mesures sérieuses qui permettent de garantir le maintien de ce système dans la durée. Moi, je veux croire qu'on trouvera une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre cela.
Donc, vous préférez pas de budget qu'un 49-3. C'est-à-dire, au risque qu'il n'y ait pas de budget, vous n'utiliserez pas 49-3, c'est sûr.
Voter le budget, c'est pas voter pour ou contre le gouvernement. C'est permettre de réduire le déficit pour l'année prochaine. C'est permettre d'augmenter, par exemple, le budget de l'hôpital. Il y a des mesures dedans extrêmement concrètes, mais pour qu'elles rentrent dans la vie des gens, concrètement, par exemple, la suspension de la réforme des retraites, il faut que les parlementaires votent ce budget.
Donc vous pensez que les socialistes le voteront ?
Mais il y aurait une incohérence de la part des socialistes à ne pas voter ce budget. Pourquoi ? Parce que dans ce budget...
Parce que c'est quand même pas mal de concessions. Donc si ensuite, à la fin, ce serait ingrat.
Dans ce budget, il y a la suspension de la réforme des retraites. C'est pas nous qui avons demandé la suspension de la réforme des retraites. Moi, pour ma part, je suis attachée à cette réforme. Je pense qu'elle était nécessaire. On a fait ce compromis, on a fait cette concession au nom de la stabilité. Il serait quand même, pour le moins... curieux, et c'est un euphémisme, que les socialistes ne votent pas ce budget. Pourquoi ? Parce que s'ils ne le votent pas, la suspension de la réforme des retraites ne pourra pas être appliquée. Parce que ce budget ne sera pas adopté. Donc, vous comprenez bien qu'on attend, face à ces compromis et face à cette concession, qui était une concession importante, qui était une concession douloureuse, une cohérence dans les votes des uns et des autres.
Ça, c'est les socialistes, vous l'avez vu, du côté du socle commun, enfin je sais même pas, on peut encore parler de socle commun ?
Moi, je continue à parler de socle commun parce que je pense qu'il y a davantage de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent.
Enfin, vous l'avez vu
avec
hier.
Avec Horizon, avec les Républicains, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Qui aurait pu penser ça en 2022 ou 2023 ?
Au moment où on se parle quand même, Maud Bréjon, vous avez d'un côté les socialistes qui vraisemblablement, en tout cas si on vous écoute, s'apprêtent à voter ce budget. Et ceux qui sont censés être les plus proches de vous, c'est-à-dire Horizon, qui ne le voteront pas. Édouard Philippe qui a annoncé hier que les députés Horizon ne voteraient pas le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc ce que vous avez gagné d'un côté, vous l'avez perdu de l'autre.
Édouard Philippe a dit deux choses. D'abord, il y a quelques semaines, il a dit qu'il était convaincu de la nécessité de doter la France d'un budget. Je suis convaincue que c'est encore le cas aujourd'hui. Il a effectivement, semble-t-il, dit hier qu'en l'état, il ne pouvait pas le voter. Il nous reste plusieurs jours de discussion. Il reste, je crois, environ 50 heures de débat à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, nous verrons. On sait qu'il y a, par exemple, un sujet auquel Édouard Philippe est très attaché, c'est la question du déficit. Eh bien, la différence entre voter le PLFSS et ne pas voter le PLFSS, c'est 10 milliards de déficit supplémentaire. Nous, on a un objectif de déficit à 20 milliards. Dans ce projet de loi, ce qui est déjà beaucoup. Si on ne vote pas ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, le déficit s'élèvera à 30 milliards. Ça signifie qu'en deux ans, on aurait doublé le déficit de la sécurité sociale. Qui pourrait aujourd'hui avoir confiance dans un système qui reposerait essentiellement sur la dette avec un déficit qui partirait complètement dans le décor? Et donc moi je dis aux députés aujourd'hui, aux députés Horizon, aux députés LR, aux députés socialistes, à l'ensemble des parlementaires et des 577 députés qui composent l'Assemblée nationale, nous avons une responsabilité majeure. La différence entre le vote du budget et l'absence de vote, c'est 10 milliards de déficit supplémentaire. Le vote de mardi prochain, c'est un vote à 10 milliards.
C'est un vote à 10 milliards, mais quand je vous écoute, je ne sais pas si vous êtes dans le déni ou dans la méthode Coué, ou un peu des deux.
Moi, je vois les débats à l'Assemblée nationale, je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste.
Moi, je vous demande juste d'être réaliste.
Notre rôle, on l'est depuis le départ, c'est d'éclairer les débats, c'est de faciliter les discussions, c'est de faciliter le compromis. Parfois ça marche, parfois c'est difficile, et on le sait. Mais enfin, pardonnez-moi, quand on dit ça, on se parle un peu à nous-mêmes. Moi, je rentre dans ma circonscription tous les week-ends, j'entends des gens qui nous demandent de nous accorder, j'entends des Français qui ne veulent pas retourner dans une crise politique, j'entends des Français qui veulent passer les fêtes de Noël, pouvoir se projeter vers des perspectives nouvelles l'année prochaine. Pas de nouveau revenir en janvier avec des discussions budgétaires qui seraient interminables.
Est-ce que vous vous préparez à une possible motion de censure? Est-ce que ce scénario, vous commencez à y travailler?
Vous savez, nous, on est dans la main, si je puis dire, des 560 députés, des 577 députés qui composent l'Assemblée nationale, et on le sait depuis le départ. Il y a eu une motion de censure étudiée il y a quelques semaines de ça, elle a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale qui refusait le désordre et qui voulait que le débat puisse se tenir. Nous avons avancé depuis, je pense que c'est toujours le cas.
Vous espérez que c'est toujours le cas? Il y a un point qui devait être discuté, j'arrive pas très bien à savoir si finalement il sera à l'ordre du jour ou pas, c'est la question de la CSG sur les revenus du patrimoine. Voilà un point auquel sont très attachés les socialistes et dont ne veulent pas entendre parler les LR et Horizon. Vous allez trancher en quelle faveur?
Les socialistes y sont attachés moins philosophiquement que pour une logique de rendement. Dit autrement, il faut bien qu'il y ait de l'argent dans la partie recettes qui entre pour pouvoir compenser certaines dépenses. On sait que le groupe Horizon, que le groupe LR, ils sont extrêmement défavorables. Nous, on n'est pas particulièrement attachés à cette mesure. Ce qu'on dit, c'est que si on la retire et si on la modifie, il faut qu'on puisse compenser en face. Pour reprendre cette expression que j'aime bien de mon collègue Roland Lescure, face à chaque plus, il faut un moins, et face à chaque moins, il faut un plus.
Donc là, c'est simple, vous pouvez le trouver.
C'est assez simple à comprendre. Nous, on est ouvert, encore une fois, à la discussion et sur l'ensemble des mesures.
Donc vous n'êtes pas favorable personnellement à la CSG sur les revenus du patrimoine.
Ce qu'on dit.
Vous pouvez y échapper.
Ce qu'on dit, c'est que si on retire cette mesure-là, il en faut une autre pour compenser en face, parce que si ce n'est pas le cas, on laisse filer le déficit.
Avez-vous des pistes ?
On en discutera durant la discussion parlementaire. Il y a par exemple un sujet qu'il faut regarder en face et avoir la lucidité d'aborder de façon courageuse, c'est la question du gel des retraites. On a proposé, en entrée de match, si je puis dire, il y a quelques semaines, un gel complet. Vous vous souvenez, c'était l'année blanche. L'Assemblée nationale a fait le choix de revenir entièrement sur cette mesure et de dégeler l'intégralité des retraites. Le Sénat a proposé il y a deux semaines un entre-deux qui me semble intéressant, en disant on gèle une partie des retraites, celles qui sont supérieures à 1 400 euros, et une partie des minima sociaux. Laurent Wauquiez, l'année dernière, avait mis la barre à 1 700 euros. Voilà des discussions intéressantes.
Vous avez l'air de dire que c'est une piste possible.
C'est une piste possible, évidemment, mais on l'a déjà dit.
Et ça, les socialistes seraient OK? Les socialistes seraient OK?
Vous leur demanderez, on verra pendant les débats. Mais enfin, quand on est attaché à la justice fiscale et sociale, on ne peut pas demander aux actifs de supporter seuls l'effort qui sera demandé l'année prochaine. Que les retraités, ceux qui le peuvent, contribuent également. Ça me semble, au fond, là aussi, une forme de justice.
Taxer davantage l'épargne, même le livret A, le Haut Conseil aux revenus et aux prélèvements le recommande. Est-ce que ça pourrait aussi faire partie des taxes qui vont commencer à apparaître?
Le livret A, on parle de l'épargne, encore une fois, des classes moyennes, que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont. Notre priorité, c'est pas de mettre à contribution, encore une fois, les classes moyennes et les classes populaires. Notre priorité, c'est de demander à ceux qui le peuvent le plus de contribuer à hauteur de leurs moyens et, en parallèle, de réduire les dépenses. Et là encore, pardonnez-moi, je reviens sur le budget de la sécurité sociale, la question des franchises médicales. On est seul à les défendre aujourd'hui. Mais moi, je le redis, le tout gratuit pour tous en matière de santé n'est ni possible ni tenable.
Je vais revenir dans un instant sur les questions de santé,
là
sur
encore,
les questions
de médecins. Qu'on arrive à trouver un point d'atterrissage équilibré.
Et sur les questions très concrètes de médecins, de natalité, voir si à un moment ou à un autre, la politique a des effets concrets. Mais à l'instant, Bruno Retailleau appelle Sébastien Lecornu, je cite, à assumer le 49-3.
C'est un peu facile. Pourquoi est-ce que nous aurions peur du débat parlementaire? Bruno Retailleau a des députés, il est président du groupe LR. Et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour lui, il a été mon collègue au gouvernement. Le groupe Les Républicains, mené par Laurent Wauquiez aujourd'hui, s'investit dans les débats, propose des amendements, prend des positions politiques. Je pense que c'est extrêmement sain. Et donc il faut laisser le débat se tenir. Je suis moi convaincue que les députés Les Républicains ont envie aussi de pouvoir s'exprimer devant les Français de par leur vote.
Donc au fond, plutôt que le 49-3, qu'ils le votent ce budget, quoi.
Bien sûr. Et donc nous irons au vote, au bout. Ce sera mardi 9 décembre, ce sera une journée importante et les uns et les autres pourront prendre position. Puis les Français regarderont qui a choisi la réduction du déficit et qui a refusé d'avancer vers un budget.
Vous disiez à l'instant, Maud Bréjon, qu'il fallait quand même qu'à un moment ou à un autre, les décisions politiques puissent se transformer en faits concrets pour les Français. Ce matin, la Cour des comptes alerte sur la dénatalité et sur ses conséquences. Ils disent qu'au fond, parce qu'on ne fait pas assez de bébés, soit il faut qu'on renonce à notre modèle social, soit il faudra qu'on paye davantage, qu'on travaille davantage. Et j'ai regardé cette histoire de réarmement démographique. Vous vous souvenez de cette fameuse expression d'Emmanuel Macron, grand discours, en janvier 2024, ça va faire 2 ans et depuis, rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire rien du tout. J'ai regardé tout le déroulé de ces annonces. C'est le symptôme de cette politique qui ne se transforme en aucun fait. Il y avait un rapport qui a été demandé en 2022 sur les raisons de la dénatalité. Ce rapport a été remis en 2023. Le grand discours d'Emmanuel Macron, il a été prononcé en 2024. On est bientôt en 2026. Et rien de tout cela n'est devenu concret. Quand je dis rien, c'est-à-dire par exemple le plan fertilité,
ça n'est qu'un mot, il n'y a rien de concret. Les pistes, elles sont encore étudiées au moment où on se parle par la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire des grands mots, des grandes promesses, aucune traduction concrète.
Alors, on est sur un sujet qui est extrêmement complexe et qui nécessite, à mon avis, de sortir des caricatures. Quand on essaie de comprendre les raisons de la baisse de la natalité, on voit que d'abord, elles sont extrêmement plurielles et elles dépendent de la classe sociale dans laquelle vous vivez, du lieu géographique dans lequel vous évoluez.
Mais moi, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que les promesses, par exemple, l'accès plus facile pour les familles aux cliniques de fertilité. Rien. C'est-à-dire que c'était des mots, il n'y a pas eu une seule mesure.
Ce que moi je vous dis, c'est que sur ce sujet-là, personne ne peut prétendre avoir de baguette magique.
Non, mais quand vous annoncez des mesures, pourquoi vous ne les faites
nous,
pas?
Ni nous, ni les autres. Quand vous dites que rien n'a été fait, c'est faux, c'est un mensonge. Quand par exemple, je vous prends un exemple.
Allez-y.
Qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est le passage de 14 à 28 jours du congé paternité. Quand on voit l'évolution des structures,
mais ça c'était pas dans le grand plan.
Quand on voit l'évolution des structures familiales, que c'était pas dans le grand plan.
Non.
C'est nous qui l'avons fait.
Oui, vous l'avez fait, mais pas dans ce grand plan. Ce grand plan avait promis par exemple un congé.
Et ensuite vous le savez bien,
mais il arrivera peut-être en 2027.
Vous le savez bien. Quand vous soutenez le pouvoir d'achat des Français face aux crises, ça joue. Quand vous travaillez à plus d'écologie, à préserver la planète, et quand vous savez à quel point ça touche les jeunes et ça touche les jeunes femmes aujourd'hui, vous travaillez aussi en ce sens. Quand vous essayez d'avancer sur la question du logement, vous travaillez en ce sens. Quand vous permettez aux femmes de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, là aussi vous accompagnez les familles.
En fait, ce que
quand
je vous comprends
portez,
pas,
et je terminerai avec un dernier exemple. Quand vous portez le plan des 1000 premiers jours qu'a fait Adrien Taquet lorsqu'il était au gouvernement, vous accompagnez aussi les parents. Mais personne, je le redis, personne n'a de baguette magique. D'ailleurs, les parlementaires se sont de nouveau saisis de ce sujet. Il y a une mission qui est en cours à l'Assemblée nationale.
Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a une mission alors qu'il y avait déjà un rapport qui a été commandé en 2022 et on refait une mission.
Les parlementaires, et c'est leur choix, ils sont souverains. C'est pas
le gouvernement qui a été payé, qui a travaillé.
Vous menez de nouveau des auditions pour essayer d'avoir de nouvelles propositions. Moi, je vous dis, on a là un sujet. Vous avez raison d'en parler.
Moi, ce qui me désole, c'est que j'ai l'impression de passer ma vie à parler des rapports que vous commandez.
Et en fait,
quand on regarde ces rapports, ils restent dans des tiroirs.
Je viens de vous donner un certain nombre d'exemples qui répondent à votre question. Je vous dis que si des choses ont été faites, mais que non, personne n'a de baguette magique. Et on a là, Je suis personnellement convaincue,
vous n'avez absolument pas répondu à ma question. Moi, je vous parlais des contenus de ce discours.
De ce discours majeur.
Dans lequel il y avait un plan fertilité qui n'était pas du tout toutes les mesures que vous me dites, qui sont toutes des mesures très intéressantes, mais qui ne font pas partie de ce plan fertilité.
Pardonnez-moi.
Qui n'a jamais été traduit de fait.
Qu'elle soit dans un plan ou à côté d'un plan, l'important c'est qu'elle s'applique.
Mais n'annoncez pas
de plan
si vous ne le faites pas derrière.
L'important c'est qu'elle s'applique dans la vie des gens. Et encore une fois, je nie pas l'importance de ce sujet parce que je suis convaincue.
Je parle du problème de la concrétisation des promesses.
C'est pour l'avenir et pour le présent par ailleurs un sujet absolument racine. Quand on parle des retraites, quand on parle du financement du grand âge, quand on parle de la sécurité
sociale,
quand on parle d'immigration de travail, tout ça, c'est lié à la question de la natalité.
Il y avait un autre dispositif qui avait été annoncé, c'était le dispositif Un médecin près de chez vous. Et là encore, grandes annonces et très petits effets. On a mené l'enquête sur RMC, il y a au moment où on se parle 250 médecins qui ont répondu à l'appel. 250 médecins volontaires dans tout le pays.
Oui, mais on continue à travailler. Prenez l'exemple des maisons France Santé, annoncées par le Premier ministre, qui sont en train de se déployer dans tous les départements, qui dépendent d'ailleurs du budget de la sécurité sociale. On revient toujours là. Si on n'a pas de budget de la sécurité sociale, on n'aura pas de déploiement des maisons France Santé. Et donc, je le redis, ce qui se passe dans les prochains jours, ça répond à cette problématique-là.
Une question sur les propos de Sophie Binet de la CGT. Elle avait dit, à propos des patrons, que les rats quittent le navire. Elle est mise en examen pour ses propos. Est-ce que quand on est syndicaliste, on ne peut plus dire une phrase comme « les rats quittent le navire »
Madame de Menton, je crois, a porté plainte.
Oui, tout à fait, c'est elle qui avait porté plainte. Cette plainte a donc été reçue.
Et c'est son droit de porter plainte. La justice a été saisie. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je préfère la CGT et les organisations syndicales lorsqu'elles sont avec nous autour de la table. Et je pense que, encore une fois, les vrais enjeux auxquels on doit répondre, ils se jouent dans les semaines à venir. Il y a une conférence travail-retraite. Et d'ailleurs, j'invite Sophie Binet à y participer parce qu'aujourd'hui, la CGT refuse d'y participer. Ce sont les vrais enjeux. Voilà.
Donc, les vrais enjeux, c'est ça. Mais
quant à la question de la phrase qui a été prononcée, écoutez, peu de remarques à faire.
Non, mais la judiciarisation, c'est-à-dire des propos, des déclarations, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète?
Non, Mais encore une fois, la justice, elle s'est saisie et voilà, et c'est elle est parfaitement légitime à le faire. Par ailleurs, attention, parce que moi je remarque aussi un climat de violence qui est extrêmement rude dans le monde politique. Vous commentez régulièrement des démissions d'élus locaux, des maires qui ont de plus en plus de mal à avancer dans leur mandat et dans leurs responsabilités. Rappelez-vous de ce qui s'est passé de ce qui est arrivé à mon collègue Vincent Jeanbrun, ministre aujourd'hui de la ville,
dont la maison avait même été ciblée par les émeutiers. Vous pensez aussi à l'œuf sur Jordan Bardella.
Je pense évidemment à l'œuf sur Jordan Bardella. Pardonnez-moi, j'aurais dû le citer. Sans, encore une fois, revenir sur les propos, les rats quittent le navire, je ne mets pas tout ça sur un même pied d'égalité. Mais j'invite les uns et les autres, voilà, je sais que le mot n'est pas très à la mode, mais à faire preuve de bienveillance, en tout cas de respect dans les échanges et les mots qui peuvent se tenir ici ou là.
Est-ce que je suis labellisée ou pas?
Enfin, bon.
Vous me le donnez le label ou pas?
Écoutez, c'est pas à moi de le dire.
Ça vous fait rire, c'est pas trop drôle.
Oui, ça me fait rire parce que vous reprenez là encore une fois pardonnez-moi, une énorme fake news, Apolline de Malherbe. Vous savez bien que l'État ne va pas donner de label, il n'y a pas de label d'État, et je ne suis pas ministre de la vérité.
Est-ce que c'était le rôle d'Emmanuel Macron de rentrer dans cette histoire?
C'est pas lui qui a soulevé le sujet. C'est la patronne, la directrice présidente, je crois, du groupe Ebra qui lui en parle dans une discussion qui est publique, hein, que chacun peut revoir, qui se tenait dans les Vosges il y a une ou deux semaines de ça. Le président de la République répond en évoquant une idée, encore une fois, qui a été soulevée par des patrons de médias, qui a été relevée dans les états généraux de l'information, et il dit lui-même jamais le gouvernement n'aura à faire ça, ce n'est pas le rôle du gouvernement, et l'inverse.
Mais qui déciderait de ceux qui pourraient donner le label? C'est-à-dire même si c'est
mais c'est pas à nous de le dire, en fait. C'est précisément pas à nous de le dire. Nous n'avons pas à mettre nos mains là-dedans. Et le président de la République.
Est-ce que vous regrettez pas, parce que c'est quand même très mal compris,
en ces mots hier au Conseil des ministres, et j'ai eu l'occasion, d'expliquer et de rappeler ce qu'il a dit en Conseil des ministres lors de mon compte rendu. En revanche, faire dire au président de la République l'inverse de ce qu'il a précisément dit, laisser entendre et véhiculer l'idée qu'il y aurait un label d'État et qu'il y aurait un ministère de la vérité en création, pardon, mais c'est extrêmement grave.
Mais vous n'avez pas de regret, vous vous dites pas on s'est mêlé d'un sujet dont on n'aurait pas dû se mêler.
Mais on ne s'est pas mêlé d'un sujet duquel on n'aurait pas dû se mêler. Le président de la République a répondu à une question posée par une de vos consoeurs d'ailleurs, et il répond en disant que ce n'est pas le rôle du gouvernement que de poser tel ou tel label sur des médias.
Donc pour vous c'est clair?
Mais c'est extrêmement clair.
Eh bien merci Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, d'avoir répondu
merci à, vous.
À mes questions de journaliste. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Et c'est tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, est restée, la vraie, dans ce studio. Rebonjour Maud Bréjon.
Rebonjour.
Elle est restée donc avec nous. Pour être bien sûr, vous n'utiliserez pas le 49.3?
Non. Non, non, un peu d'une manière, on n'utilisera pas le 49.3.
Non, mais je ne
voilà,
pas
je suis...
ça.
Non. Ben si. Non mais attendez, moi je suis porte-parole du gouvernement, d'accord? Donc si à un moment donné on n'écoute pas la parole que je porte, à quoi je sers? Non mais arrêtez avec vos fake news, Apolline Malherbe, je ne suis pas ministre de la vérité, hein. Je suis juste porte-parole du bordel gouvernemental.
Ah, voilà. Merci beaucoup Maud Bréjon. Jean-Michel Apathy est avec nous, bonjour, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Écoutez Apolline, je voulais revenir sur votre interview de Maud Bréjon. Elle est porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va au carton tous les jours au quotidien. Elle te met des trucs invendables dans de jolies formules. C'est comme au restaurant, oui. C'est pareil. Pareil. Quand vous lisez farandole de filet de Colin en chapelure grand-mère sur son nuage de pommes de terre, hein, tu sais qu'en fait, tu vas bouffer deux croustibates avec de la pourrie mousseline. Hein.
Donc, vous savez traduire le mot de Bréjon?
Oui, parce que j'ai fait porte-parole du gouvernement, deuxième langue, vivant.
Ah oui. Voilà.
Quand Montbrison dit la façon de passer ce budget est accessoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le budget, on va taper dessus avec le pied jusqu'à ce que ça rentre, que ce soit par 49.3, par ordonnance, en s'alliant avec n'importe qui. En tout cas, il nous faut un truc. Voilà. Hier, Montbrison nous a sorti quelque chose. Elle a une belle formule. Elle a dit ce budget ne sera ni macroniste, ni socialiste, ni de droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça va être une merde sans nom et personne ne sera un vocal.
Ah oui.
Voilà, il faut savoir traduire.
Bien sûr.
Voilà, c'était Jean-Michel Duolingo.
Voilà, c'est ça. Merci Jean-Michel. Jean-Pierre Foucault voulait également réagir.
Oui, tout à fait. Bonsoir, monsieur Président. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai bien écouté la porte-parole du gouvernement, Maud Brisson, nous dire que ne pas avoir de budget, c'est pas bien, que la désinformation, c'est pas très gentil. Elle nous a dit également que l'écologie, c'est important, et que la France veut la paix dans le monde.
Oui.
Eh bien, je suis heureux d'annoncer à Maud Brisson qu'elle est tout à fait prête pour participer au concours Miss France ce week-end, aux côtés de Miss Nouvelle-Calédonie. Donc, nous aurons Maud Brisson, Miss Nouvelle-Macronie.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Allez, tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui n'a pas besoin de porte-parole parce que sa voix, elle porte déjà suffisamment comme ça. Après la condamnation de l'État pour défaut de cours d'éducation à la vie sexuelle, l'enseignement privé catholique tient à rappeler que de son côté, il a toujours été précurseur et exemplaire en la matière. Et puis, cambriolage chez François Hollande. Très peu d'objets de valeur ont été dérobés. Ségolène Royal souhaite réagir.
Oui. Oui, bonjour Montbrison, bonjour Apolline. Oui, je confirme que rien n'a été dérobé chez François. Est-ce que vous savez pourquoi?
Ben non.
Hein? Mais parce qu'il n'y a pas d'objet de valeur chez François. Il n'y a même pas de valeur du tout.
Oh,
hein?
Oh.
Hein? Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité hein, chez François. Hein? La seule chose qui avait un peu de valeur chez lui, ben elle s'est barrée en 2007 et elle est en train de vous parler au micro. Voilà.
C'est ça, merci beaucoup. On sent qu'un petit peu d'amertume. Merci Madame Royal. Bonjour, tiens, Monsieur Hollande, justement, qui arrive. Je crois que vous aussi, vous souhaitiez réagir.
Oui, déjà pour... j'aimerais saluer Brigion, c'est excellent, parce que moi, je me sens aussi un peu mode de bain. Et je voudrais m'inscrire en faux sur les propos qui viennent d'être tenus à l'instant. Des choses de valeur, il y en avait à mon domicile. Déjà, le bilan de mon quinquennat, de 5 ans de travail que j'avais couché sur papier à la main méticuleusement.
Ah oui.
Mais heureusement, ils n'ont pas retrouvé le document parce que je l'avais caché, ce post-it, de façon assez judicieuse en le collant sur le frigo. Et je ne vous parle pas de mon programme pour redresser la France en 2007 que j'avais mis au congélateur afin de le conserver au mieux. Oui, parce que c'est le même que 2012.
C'est bien, merci monsieur Hollande. Vladimir Poutine se dit prêt à un conflit contre l'Europe. On parle beaucoup de guerre sur tous les plateaux télé.
Ouais.
Et on a notre spécialiste Didier François, bien sûr.
Oui, alors je me présente, Didier François, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis le spécialiste du renseignement, de l'armement, de tout ce qui est militaire. Et à côté de ça, pour me détendre, j'ai autre chose dans la vie. J'ai 3 autres grandes passions: les théâtres de guerre, les champs de bataille, les zones de combat.
Ah,
alors, sur le plateau de BFM, vous me reconnaîtrez facilement. Je suis le seul qui parle de la guerre avec la banane. Ouais, parce que j'adore quand ça pète, j'adore la guerre. Voilà. La guerre en Ukraine, faut savoir récemment, je suis sur Mariupol. Il y a une petite poche de résistance de 8 hommes au niveau, là, les dernières infos, au niveau du pont de Kristovsk qui enjambe la rivière Dragushkin, sur la route entre le village de Baryushkav et Mariupol, quand vous prenez à gauche au deuxième rond-point.
Oui, c'est précis ça.
Oui, alors hier, aux alentours de 23h20-23h25, les premiers tirs ont été entendus, les combats ont duré entre 23-24 minutes. Un sergent ukrainien de 32 ans, originaire d'Odessa d'ailleurs, parce que Andrea Pinchcook a été touché au 5e étage carpien, la main gauche. Alors attendez, là j'ai plus le temps parce que j'ai mon bus qui part pour Mariupol dans quelques minutes, donc je reviendrai demain pour des infos plus précises.
Bien sûr, merci beaucoup Didier François. Et le week-end dernier, Airbus a immobilisé 6000 avions en raison d'un logiciel vulnérable aux radiations solaires. Et là, rebelote à nouveau un problème sur ces avions. Jean Castex est avec nous. Jean Castex, bonjour, vous êtes le patron de la SNCF. Vous voulez réagir aux avions, vous?
Oui, bonjour Madame de Malherbe, c'est un peu prêchant. D'abord, je voulais vous dire que je compatis pour nos amis avionneurs. n'est-ce pas? Et en même temps, ça nous fait du bien, SNCF. Ça montre que nous avons, au niveau des trains, nous sommes très fiables. Voyez-vous, avec un train, aucun risque de crash. Non, vous pourrez rester avec nous, même, bref, n'hésitez, ou alors n'hésitez pas à vous barrer en plein train. Non, ça ne se fait pas. Alors, avec un train, sachez qu'il n'y a aucun risque de crash aérien. Voilà. Avec un train, si un train, si parfois un train peut être arrêté pendant 12 heures, c'est la chose que vous risquez la nuit à cause de la chute de 14 feuilles mortes sur les voies. Mais tout ce que vous risquez, c'est de devoir attendre l'intervention de nos équipes qui se déplaceront à 42 personnes pour retirer ces 14 feuilles mortes en 8 heures de temps, en prenant soin de ne jamais vous donner la moindre information pour ne pas vous inquiéter inutilement. Car, c'est ça la SNCF. Et puis, vous allez perdre quoi? Et au pire, vous perdrez, vous rentrerez un dîner chez votre belle-mère, à Besançon. Mais la SNCF, jamais on ne vous fera rater 3 semaines de vacances exotiques, de bronzettes et de stages de plongée bouteille. Parce que, je vous le dis, madame de Malherbe, oui, je vous le dis, la SNCF, jamais nous n'avons annulé un train pour les Maldives.
Merci Nicolas Cantelou. Merci, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement.